7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et avec Virginie Fulpin pour le journal.
On savait que le chiffre serait mauvais. L'INSEE le confirme. Le déficit public de la France s'établit à 5,5% du PIB. 3000 militaires sur le terrain, 4000 autres placés en alerte. La France est en alerte attentat. L'État islamique au Khorassan qui a revendiqué l'attaque de Moscou est susceptible de frapper. Et puis le musée d'Orsay fête les 150 ans de la naissance de l'impressionnisme. On vous y emmène à la fin de ce journal.
Après le journal, l'éditorial de Guillaume Tabar, l'exécutif face au risque terroriste. Voilà qui change une fois de plus la donne politique à quelques mois des Jeux Olympiques. Et puis à 8h15, je recevrai Charles Sapin, grand reporter. 18 mois qu'il parcourt l'Europe des partis nationalistes, l'Italie de Meloni, la Hongrie d'Orban ou encore les Pays-Bas de Geert Wilders. Il nous parlera de leur dynamique dans la perspective du scrutin européen. Le déficit public de la France s'établit à 5,5% en 2023.
C'est tout sauf une surprise. On savait que les chiffres seraient mauvais. L'INSEE le confirme. Mais pourquoi le déficit public a autant dérapé? L'économiste Marc Toiti nous explique que le dérapage est dû à des recettes fiscales qui ont manqué.
C'est très simple, en fait, il y a eu un excès d'optimisme sur les recettes fiscales, que ce soit notamment les recettes d'impôts sur les sociétés. Malheureusement, beaucoup d'entreprises ont déposé le bilan ou sont en défaut de paiement. Donc évidemment, s'il n'y a pas d'entreprise, il y a moins de collecte d'impôts sur les sociétés. Pareil sur l'impôt sur le revenu, les revenus ont été moins élevés que prévu. Et enfin, recettes sur la TVA, la consommation a été moins bonne. Donc ça veut dire aussi que peut-être que les chiffres du PIB sont un petit peu gonflés, parce que c'est vrai qu'il y a un décalage entre finalement une croissance qui a été relativement correcte, va-t-on dire, et puis les recettes fiscales qui ne sont pas au rendez-vous. Donc le vrai danger, c'est que on risque d'être dégradé dans les prochaines semaines parce que justement on ne respecte pas nos engagements.
Marc Toiti avec Éric Mauban. Bruno Le Maire admet que l'objectif n'a pas été atteint, mais le ministre de l'économie veut toujours revenir à un déficit à 3% du PIB en 2027 et il refuse toute idée d'augmenter les impôts. Un déficit à 5,5%, c'est 21 milliards d'euros de dette qu'il faut tenter d'effacer. Parmi les pistes, la majorité s'interroge sur l'idée d'une taxation exceptionnelle des super-profits des grandes entreprises. Le sujet n'est pas tabou pour Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Pas tabou, mais loin de faire consensus, Charles Ducrot.
Le sujet des super-profits sera à l'ordre du jour d'une réunion de groupe ce matin. Ça promet, lance une députée Renaissance, tant la question divise. Louis Marguerite, député membre de la Commission des Finances, en est convaincu. Taxer les super-profits est une fausse bonne idée.
Une telle taxe ne rapporte jamais ce qu'on prévoit qu'elle rapporte. On parlait de plusieurs milliards pour nos voisins européens qui l'ont fait. À la fin, c'est même pas 500 millions d'euros. Les profits dont on parle sont des profits qui, pour la plupart, ne sont pas réalisés en France. C'est pas très populaire, mais c'est pas en instaurant une nouvelle taxe qu'on va faire ce travail sérieux de maîtrise de la dépense.
Super profit, super dividende, rachat d'actions massifs. La présidente de l'Assemblée nationale a déjà posé le cadre d'une taxe temporaire. L'Élysée et Matignon ne commentent pas, signe qu'aucune piste n'est écartée désormais pour combler la dette. François Bayrou, lui, se frotte les mains. Le chef du Modem est à l'origine de cette proposition et il plaide pour un débat parlementaire. Pourquoi pas, répond le ministre de l'économie Bruno Le Maire, malgré son hostilité à cette mesure. Lui plaide plutôt pour une imposition minimale sur les plus hauts revenus au niveau international. Plutôt contre initialement, un autre député se ravise, espère maintenant un texte juste, confie-t-il par message, même s'il l'avoue, il n'y croit pas vraiment.
Les agriculteurs sont assez loin des super profits. Le congrès de la FNSEA ouvre aujourd'hui à Dunkerque. Deux thématiques majeures cette année, les résultats des semaines de mobilisation des agriculteurs et les élections européennes. Le chiffre est bien XXL, 496 interpellations depuis la semaine dernière après les opérations Place Net XXL. Après Marseille, 4 opérations anti-drogue ont été menées hier dans la métropole lilloise, dans l'agglomération lyonnaise, à Dijon et en banlieue parisienne. L'objectif, c'est d'arrêter 850 personnes en tout. Ça, c'est la lutte contre le narcotrafic sur le terrain, alors que les sénateurs, eux, veulent s'en prendre aux porte-monnaies des narcotrafiquants. Ils étudient une proposition de loi pour rendre automatique la saisie des biens des mafieux, une sanction dissuasive et efficace, d'après Fabrice Rizzoli. Il est spécialiste de la grande criminalité.
Depuis que la France a une politique de confiscation, c'est-à-dire depuis à peine plus de 10 ans, c'est facultatif, à cause du manque de moyens de la justice, qui doit se concentrer pour faire les enquêtes, c'est-à-dire saisir les produits, et contre les homicides, eh bien, elle délaisse parfois, au départ de l'enquête, les enquêtes patrimoniales. En particulier, contre le trafic de stupéfiants. Si on assèche leurs finances, ils ne pourront plus passer à l'acte. C'est ce que nous apprend l'Italie en ayant inventé des confiscations extrêmement puissantes pour certains gangsters et surtout qui leur a permis de renoncer à utiliser l'assassinat de manière quotidienne.
Des propos recueillis par Lauriane Toulmont.
La France est en état d'alerte maximale au sujet des attentats.
Oui, vous avez peut-être remarqué plus de militaires dans les rues depuis hier. Le plan Vigipirate a été relevé à son niveau le plus élevé. 4000 militaires supplémentaires sont placés en alerte. L'attentat de Moscou nous rappelle que la France peut être attaquée par le terrorisme islamiste. C'est le groupe État islamique au Khorassan qui a revendiqué l'attaque dans la capitale russe. 139 morts selon le dernier bilan. On se demande forcément s'il peut attaquer la France. Ce groupe est la filiale la plus active de Daesh aujourd'hui, Marc Tédé.
Plus d'une dizaine de projets d'attaque de l'État islamique au Khorassan ont été déjoués ces dernières années en Europe, comme mardi dernier en Allemagne avec l'interpellation de deux Afghans qui préparaient un attentat contre le Parlement suédois en réaction à des autodafés du Coran. Fin décembre, des Tadjiks avaient prévu de viser la cathédrale de Cologne. En France, la DGSI a déjoué en novembre 2022 à Strasbourg une attaque multiple. Le commando était mené par un Tadjik et un Russe. Des attentats projetés ou téléguidés depuis l'Afghanistan, souligne Michael Lévy-Stone, chercheur spécialiste de l'Asie centrale.
Cet État islamique, province du Khorassan, est capable d'aller frapper au cœur un pays qui est engagé dans une guerre, qui est une superpuissance nucléaire et qui a un régime policier depuis 2022. C'est eux qui ont repris le flambeau aujourd'hui. Au sein de la galaxie Daesh, la maison mère qui est implantée en Irak et en Syrie a été très affaiblie par les différentes campagnes militaires, notamment russes, sur ces théâtres d'opération. Et à l'inverse, l'Afghanistan reste maintenant véritablement le trou noir de la région dans lequel les mouvements terroristes djihadistes peuvent pulluler.
L'Afghanistan où ces djihadistes espère renverser les talibans et proclamer là aussi un califat, comme à Mossoul en juin 2014.
La résolution de l'ONU ne change rien, toujours pas de trêve à Gaza. Pourtant, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté hier une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat. On termine par un anniversaire, celui de l'impressionnisme. Le mouvement pictural est né à Paris il y a 150 ans et le musée d'Orsay revient sur ses débuts à partir d'aujourd'hui. L'exposition s'appelle « Inventer l'impressionnisme ». Augustin Lefebvre, bonjour.
Bonjour Virginie, bonjour à tous.
Vous avez visité cette exposition pour Radio Classique, une plongée dans les premières semaines de ce qui deviendra l'un des courants artistiques les plus populaires de l'histoire de l'art.
Oui, la première salle est peinte en rouge, au mur une danseuse, une femme en bleu, une vue du boulevard des Capucines, comme pour la première exposition impressionniste de 1874, Sylvie Patry, co-commissaire de cette exposition.
On est entouré d'œuvres exceptionnelles, de Renoir, de Degas. On a voulu présenter dans cette première salle de l'exposition des tableaux dont on sait par les critiques de l'époque qu'ils étaient dans la première salle de l'exposition impressionniste le 15 avril 1874.
Renoir, Degas, évidemment Monet, Cézanne et Berthe Morisot, mais aussi des noms moins connus qu'on n'associe pas aux impressionnistes, car ce qui unit ces peintres, c'est une volonté d'exposer et de vendre leurs œuvres en dehors des institutions officielles.
C'est vraiment une prise de pouvoir des artistes et c'est aussi une entreprise commerciale, il faut pas l'oublier. Pour participer à cette première exposition impressionniste, il ne fallait pas être impressionniste, il fallait verser une cotisation. Ce qui explique le casting, si je puis dire, de cette exposition, il est moins esthétique que amical, politique ou de circonstances.
Et pour prolonger la découverte, le musée d'Orsay propose une expédition en réalité virtuelle, casque sur la tête, on déambule dans l'exposition de 1874 comme si on y était, au Moulin de la Galette ou derrière Monet en train de peindre, impressionnant.
Merci Augustin Lefebvre. Inventer l'impressionnisme, c'est jusqu'au 14 juillet au musée d'Orsay.
Merci Virginie, on ira. Je vous dis à demain pour d'autres informations. À suivre l'éditorial de Guillaume Tabar avec Le Figaro, l'exécutif face au risque terroriste, une nouvelle donne politique Radio Classique.